Le titre de mon message aujourd'hui, le sentier resplendissant. On pourrait l'intituler aussi le sentier qui amène la présence glorieuse de Christ dans nos vies. Nous allons tourner dans le Proverbe chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'à 14. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Et nous allons lire les versets 18 et 19 du même chapitre. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le sentier resplendissant. La voie de la sagesse. Tout ce chapitre nous parle d'une voie à suivre, d'un chemin à suivre. Le chemin de la droiture. Le sentier des méchants qu'il faut éviter. Le début du chapitre nous parlait de la sagesse. De la sagesse qui veut se faire aimer de nous. Proverbe chapitre 4 au verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle tournera d'un magnifique diadème. » Ça nous parle de la sagesse. La sagesse qui veut venir dans notre cœur, qui veut être aimée, qui a besoin d'être désirée, qui ne s'impose pas, qui se reçoit, qui s'accepte. Et cette même sagesse a une voie tracée pour nous. Elle a un chemin. Elle veut nous entraîner à sa suite, sur le chemin de la sagesse, sur les sentiers de la droiture. Et lorsqu'on se met à suivre ce chemin, la parole de Dieu nous dit que cela va aller en grandissant, en croissant, jusqu'au plein jour, jusqu'au midi, jusqu'au temps où la lumière va devenir la plus haute, resplendissante. Le jour où Christ, la présence de Christ, vient se manifester d'une façon puissante. C'est comme si la grâce de Dieu, en entrant dans nos vies, a une semence, sème quelque chose dans notre vie. Elle met un dépôt dans notre cœur, comme le Saint-Esprit, un dépôt de vérité. Elle veut nous conduire sur cette vérité, sur ce sentier. Car elle a un fruit, le sentier dans lequel la grâce de Dieu nous conduit, entraîne un fruit dans notre vie. Et c'est un fruit qui va en augmentant continuellement. Une grâce. Ça devient comme une couronne, quelque chose qui va complètement entourer notre tête, qui va faire comme un magnifique diadème. Et cette couronne-là, c'est la couronne de la grâce de Dieu. Christ veut se manifester à nous. Les trésors de sagesse et d'intelligence qui sont en Christ veulent se manifester à nous au travers du Saint-Esprit. Mais il demande à être écouté, à être reçu. quels sont ces sentiers qu'il va nous entraîner à sa suite? Quel est ce chemin qu'il trace devant nous? Christ nous a laissé l'exemple. Christ nous a laissé le modèle. Christ, en allant à la croix, nous a laissé le sentier à suivre, qui n'était pas le sentier du diable, le sentier que le diable a suivi. Le sentier du diable, c'est s'élever en écrasant les autres. C'est dominer, prendre toujours plus de l'ampleur, penser juste à lui, se prosterner devant lui pour s'élever, peu importe si les autres sont abaissés, peu importe si les autres sont écrasés. Cela ne dérange pas. La voix de Satan, c'est dominer à n'importe quel prix. La voix de Jésus-Christ, c'est s'humilier, c'est s'abaisser, c'est servir autrui pour que l'autre soit élevé, pour que l'autre soit sauvé, pour que l'autre puisse entrer lui aussi dans le règne de Dieu. Ça, c'est la voix de Jésus-Christ, c'est la voix de l'humilité. C'est la voix du renoncement. Renoncement à soi-même pour élever l'autre. Tandis que la voie de Satan, c'est la voie de l'élévation personnelle, la domination personnelle. Il faut m'accomplir. Ça, c'est la voie de Satan. La voie de Jésus-Christ est complètement différente, à l'opposé. C'est la voie du Maître. C'est le sentier de la sagesse. Christ, par sa vie et par sa mort, nous a montré le chemin de la sagesse. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, son chemin, ses traces, le chemin qu'il a tracé. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ a tracé un chemin devant nous, qui était le chemin de l'humilité. Le chemin de l'amour, devenir un serviteur des autres pour élever, pour sauver autrui. Ne pas se défendre soi-même, laisser Dieu nous défendre. Laisser Dieu lui-même nous élever. Ça, c'est le chemin que Jésus-Christ a tracé. L'apôtre Paul en parle lui aussi. J'en ai tourné à Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quoi son cœur, ses sentiments qui l'animaient pour marcher sur ce chemin-là? Lui qui existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ a suivi la voie de l'humilité. La voie du renoncement, de l'abaissement, de devenir serviteur, de mettre autrui à la première place, de prendre la dernière place, la place que l'on désire la moins, la place la plus difficile, la plus souffrante, de prendre cette place-là et de laisser la meilleure aux autres. Ça, c'est le chemin de la sagesse. C'est le chemin de l'humilité, le chemin de l'amour. Et cela a plu au Père. C'est le sentier resplendissant, qui va jusqu'à la pleine lumière. Cela plaît au Père de telle sorte que le Père peut envoyer sa gloire, qu'il a pu donner à Jésus cette gloire, parce qu'il savait que Jésus n'utiliserait pas mal cette gloire. Il savait que le dessein de Jésus, c'était l'amour, c'était d'élever autrui. Donc le Père savait que même s'il donnait cette gloire à son Fils l'utiliserait à bon escient. Contrairement à Satan, qui était un ange de lumière, un ange de gloire, et qui a utilisé cette gloire à des fins personnelles, pour s'élever lui-même, et abaisser autrui, écraser autrui, détruire. Il est devenu destructeur, il est devenu voleur, il est devenu meurtrier, la Bible nous dit. Et Jésus a suivi complètement la voie inverse. Il s'est rendu serviteur, amour. Il s'est donné pour autrui, jusqu'à la dernière minute. Il a porté même les fardeaux des autres. La souffrance d'autrui, il l'a porté sur ses propres épaules. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, en Galates, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est le chemin que Christ a tracé pour nous. Il a tracé un chemin. Tu veux devenir grand? Sois le serviteur d'autrui. Va même jusqu'à porter le fardeau de ton frère, de ta sœur. Le fardeau des plus faibles, porte-le sur tes épaules. Prends leur souffrance sur tes épaules. Donne-toi pour autrui. Deviens l'esclave de tous, le serviteur de tous. Humilie-toi. Ne cherche pas la première place. Prends la dernière. Plais-toi à prendre la dernière place et laisse la première aux autres. Prends la dernière de faire le plaisir de la sagesse en prenant cette dernière place-là, comme Jésus a fait. Jésus a fait les plaisirs de la sagesse d'en haut. Les plaisirs du Saint-Esprit. Il a fait la joie du Saint-Esprit, la joie de son Père. Il a pris cette dernière place, ce chemin-là, qui était le chemin de l'humilité, et parce qu'il a pris ce chemin, Dieu l'a élevé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous, en tant que croyants, nous avons à suivre ce sentier-là, à suivre cette voie. C'est un chemin qui est frayé d'avance. Nous ne devons nous en détourner pour rien au monde. Comme avait dit le prophète Jérémie en Jérémie 18, le verset 12 à 15, le Seigneur reprochait à son peuple de l'avoir abandonné, d'avoir emprunté des mauvais chemins, des mauvais sentiers, d'avoir délaissé la sagesse. Jérémie, chapitre 18, verset 12 à 15. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à ses idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Pour suivre des sentiers, des chemins non frayés, des chemins que le Seigneur n'avait pas tracés pour eux, qui n'étaient pas la voie de la sagesse, qui était le chemin que Satan suivit, le chemin de l'exaltation personnelle, le chemin de l'égoïsme, de penser juste à lui, de suivre les penchants de son mauvais cœur, plein de convoitise, plein d'orgueil. Le peuple d'Israël a commis cette faute d'abandonner les antiques sentiers, de suivre des chemins non frayés, non tracés. Christ a tracé un chemin pour nous. C'est le chemin de la croix. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix. C'est le chemin qu'il a tracé pour nous. La croix, c'est le chemin du renoncement, de l'abandon de soi-même pour suivre Christ, pour suivre l'Esprit, pour aimer comme Jésus a aimé, pour suivre la voie du Maître qui était la voie de l'amour. la voie du service pour autrui. On voit cela aussi dans Cantique des Cantiques, chapitre 2. Ce qui plaisait au Saint-Esprit, le chemin qui plaisait au Saint-Esprit, la colombe céleste. Cantique des Cantiques, chapitre 2, les versets 13 et 14. Le figuier embaume par ses fruits, les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Christ, notre rocher, a été frappé, a été meurtri pour nous. Les meurtrissures sont encore dans ses mains. Et le Saint-Esprit nous entraîne à nous tenir dans ses meurtrissures, à nous tenir à sa croix, dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées, à suivre le même chemin que le maître a suivi, le chemin étroit qui mène à la vie, non le chemin large qui mène à la perdition. Le chemin que le Saint-Esprit trace, l'Esprit de vérité, trace pour nous. Tiens-toi là, avec le Maître, avec le Saint-Esprit, sur ce chantier du renoncement, la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer aux convoitises trompeuses. Cache-toi en Christ, tiens-toi à la croix. Porte cette croix avec Christ. Prends ce joug sur tes épaules, comme je parlais la semaine passée, le joug qui est doux et léger. Prends ce joug, accepte de suivre ce chemin, ce sentier, car c'est la voie que Christ trace pour nous. C'est le chemin qui mène à la présence glorieuse de Christ, à la présence du Père qui vient et qui trouve agréable notre vie. Une vie qui peut lui plaire. C'est quelqu'un qui suit le sentier de la droiture, le sentier de la grâce. On va tourner dans les Cantiques, chapitre 4. Le lieu de rencontre entre la bien-aimée, qui était l'Église, et Christ lui-même. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 6 et 7. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. C'est Christ le bien-aimé qui parle à son épouse, qui va rencontrer son épouse. Où va-t-il rencontrer son épouse? À la montagne de la myrrhe. La myrrhe parle des souffrances de Christ. La myrrhe était utilisé pour embaumer les morts. Ça parle de la mort avec Christ. La communion de ses souffrances, comme nous dit l'apôtre Paul. À la montagne de la myrrhe, la montagne que Christ lui-même a gravée avec la croix. C'est là que Dieu va nous rencontrer. À la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. L'encens nous parle du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, sur l'autel des parfums, qui offrait à Dieu l'encens. L'encens brûlait continuellement jour après jour. Et cela nous parle de la prière des saints, comme nous dit l'Apocalypse. Cela nous parle aussi de notre souverain sacrificateur qui prie et intercède pour nous chaque jour. Continuellement qui prie et qui intercède pour nous. La colline de la prière et de l'intercession continuelle. La communion avec Jésus lui-même, le Christ vivant, celui qui vit en nous, celui qui demeure en nous par son esprit. Le lieu de notre rencontre avec Christ. Le lieu où l'on est parfait à son image, où l'on est rendu semblable à son image. La montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Le lieu où Christ nous attend pour nous rencontrer. Le sentier qui lui plaît, qui lui est agréable. Le sentier qui fait que sa gloire peut paraître. Parce qu'il voit il peut rencontrer sa bien-aimée. C'est là qu'il va rencontrer sa bien-aimée. C'est le sentier resplendissant dont la lumière va croissant jusqu'au plein jour. Christ nous attend à cet endroit. Il s'attend à ce qu'on suive ce sentier, ce chemin tracé. Il l'a tout tracé d'avance. Christ a un plan pour chacun de notre vie. Comme dit l'apôtre Paul, chacun portera son propre fardeau. Christ a mis une charge sur nous, sur chacun de nous. L'apôtre Pierre va dire, les souffrances que tous les enfants de Dieu sont appelés à partager, auxquelles on part tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas personne qui est excepté. Nous avons tous des souffrances à partager avec Christ. Christ a tracé un chemin. C'est la voie, la même voie que lui a suivi. Ce n'est pas la voie de l'égoïsme, c'est la voie du renoncement à soi. Ce n'est pas la voie de l'orgueil de s'élever soi-même, c'est la voie de l'abaissement. C'est la voie de l'amour. Le but, c'est toujours l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le chemin de l'amour. Christ a tracé ce chantier pour qu'on le suive, pour qu'on devienne semblable à lui. Qu'on ne devienne pas des êtres égoïstes imbus d'eux-mêmes, mais qu'on devienne au contraire des gens qui vont servir autrui, qui vont être là pour amener les autres à être élevés, à être sauvés, à parvenir au royaume. On va être là comme des exemples, comme Christ lui-même a suivi, comme Christ lui-même a marché. Il faut se tenir dans le creux de sa main. Savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui a tracé un chemin, un sentier, dans les parois escarpées, là où le Saint-Esprit nous conduit. Dans les lieux où personne ne passe. Les parois escarpées, c'était un endroit où personne n'allait. Christ, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, nous conduit dans cet endroit particulier, cet endroit de service, cet endroit que le monde ne connaît pas. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce qui est en Christ, au contraire, c'est le renoncement à soi-même, c'est l'humilité, c'est l'abandon de ses désirs personnels pour servir autrui. C'est la marche dans la vérité et dans l'amour. C'est la voie que le Maître a tracée. C'est le seul sentier qui est resplendissant où la gloire de Christ se manifeste. Suivons, marchons dans ce sentier à la rencontre de notre Maître, car c'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il veut devenir proche de nous, qu'il veut nous rencontrer. Et notre cœur trouvera sa joie, non pas dans les circonstances extérieures, mais en lui, dans sa présence. Comme lui, Jésus faisait sa joie de la présence de son Père. C'est là la montagne de la myrrhe, la colline de l'encens, un lieu où l'on apprend à vivre dans la présence du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 12. La montagne de la myrrhe. C'était quoi pour l'apôtre Paul? C'était quoi pour chacun de nous? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. L'apôtre Paul vivait cela jour après jour. La communion des souffrances de Christ, la montagne de la myrrhe, la mort à soi-même pour que l'autre vive. Comme il dit au verset 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » L'apôtre Paul suivait ce sentier-là pour que les autres soient élevés, pour que la vie agisse dans les autres. C'était la voie que le maître avait tracée pour lui. S'oublier, prendre sur soi-même les souffrances pour que les autres vivent. Ça, c'est le chemin de l'amour. C'est pas le chemin que le diable a suivi. Tout le contraire. C'est pas le chemin que le monde nous entraîne à suivre. C'est tout le contraire. Christ nous entraîne sur un autre chemin. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'humilité. À la montagne de la mire. À la colline de l'enceinte. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir du Père, son amour pour sauver tous ses petits, son amour pour intercéder, pour prendre les souffrances de ceux qui souffrent, des faibles, des pauvres, afin qu'ils soient sauvés. Et l'apôtre Paul exhortait avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. C'est la colline de l'encens. Là, il faut se tenir continuellement dans la présence de Christ, à la montagne de la mire et à la colline de l'encens. C'est là que la vie de Christ se manifeste glorieusement. Si quelqu'un souffre pour Christ, l'apôtre Pierre va nous dire que c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce, c'est l'Esprit de grâce qui est en train d'agir dans votre vie et vous couronner, vous donner une couronne de grâce. Souffrez pour Christ, par amour pour les autres, par amour pour Christ, par amour pour les autres. C'est toujours l'amour qui nous motive, rien d'autre que l'amour. On ne le fait pas pour être élevé, on le fait par amour. Parce que c'est le chemin que Christ nous a tracé devant nous. Son amour est si grand. Il l'a prouvé en allant à la croix. Personne n'a prouvé un tel amour envers nous. Son amour, il l'a démontré à la croix. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en action. Le Saint-Esprit qui trace devant nous un chemin resplendissant, un chemin de gloire, qui passe par l'abandon de soi, par le renoncement. C'est le chemin de l'amour, le chemin où la présence de Dieu peut devenir manifeste dans notre vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a le chemin de Christ ou il y a le chemin de Satan. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir lequel chemin nous voulons suivre. Quel maître nous voulons. Qui nous voulons pour maître, Christ ou Satan? Le sentier qui trace devant nous, oui, il y a une croix. Oui, c'est un chemin étroit. Mais c'est le sentier de la vie. C'est le sentier qui surtout apporte la vie aux autres. Devenir un serviteur de Dieu et aux serviteurs des hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse.